Suspendu de France 2 accueille la nouvelle avec sérénité. La mise en examen n'est pas accompagnée de contrôle judiciaire. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, dénonce l'indemnisation de 300 000 euros versée par l'assureur AXA à LVMH en compensation des propos racistes tenus sur France 2 par Jean-Paul Guerlain. La société Guerlain est une filiale de LVMH. Elle avait subi des préjudices du fait des propos de son ancien patron, des vitrines brisées, des fermetures temporaires de plusieurs boutiques. L'indemnisation est qualifiée par le CRAN de prime à la haine immorale. Le CRAN qui demande au PDG de LVMH, Bernard Arnault, de consacrer cette somme à la lutte contre le racisme et pour la diversité. Laurent Geoffrin, patron de Libération, déjà chargé du rapprochement entre le quotidien et le Nouvel Obs, pourrait rejoindre pour de bon l'hebdomadaire. Il est fort possible que j'aille au Nouvel Observateur, a-t-il dit à l'AFP. Le poste de président de l'Obs est vacant depuis le départ de Denis Oliven pour Europe 1. Et puis c'est Charles Begbédé qui devrait prendre la tête de la candidature d'Annecy pour les JO d'hiver 2018. Charles Begbédé, homme d'affaires président de la société Poéo, est le frère de l'écrivain Frédéric Begbédé.
Nous autres.
Mon frère et moi, nous sommes français.
Zoé Varier.
Nous sommes français.
Ils sont des centaines d'enfants bloqués en Haïti depuis un an en attente de regroupement familial.
Ce n'est pas une question qu'on veut que tous les enfants d'Haïti rentrent. C'est pas ça. C'est que ces enfants-là, ils ont quand même priorité.
Combien de mois encore à attendre des visas pour la France ?
Nous autres.
C'est la France qui doit le donner.
Ce soir, à partir de 20h.
France Inter, partenaire de la rétrospective d'Alfred Hitchcock, à la Cinémathèque française à Paris et à l'Institut Lumière à Lyon.
Hello.
La mort aux trousses, le crime était presque parfait, Psychose, mais aussi Agent secret ou numéro 17.
Hello.
Les chefs-d'œuvre et les raretés du maître absolu du suspense, à voir ou à revoir.
If you spend your evenings watching murder,
à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
You may recognize this.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Ben Ali, ya jaben, el mouatan, la yohan. Ben Ali, ya jaben, el mouatan, la yohan. Traduction, Ben Ali, t'es un lâche, notre dignité ne se négocie pas. C'est par ces slogans que les Tunisiens sont sortis par milliers dans les rues, ce qui est un fait exceptionnel. Et malgré le peu de couverture médiatique, les gens persistent et sortent dans les rues. Donc contrairement à ce que dit M. Sarkozy, qui préfère M. Ben Ali, à M. Ben Laden en Tunisie, les Tunisiens ne sont pas sortis avec des slogans islamistes. Ils veulent juste un travail, une vie digne et la liberté. Liberté d'expression, liberté démocratique. Donc, les Tunisiens doivent être soutenus. J'espère que tous les ANG seront là pour les soutenir, que ce soit même par des messages sur Facebook, parce que la lutte se passe sur Facebook. Et surtout, plusieurs jeunes sont pris par la police la nuit dans leur maison, sous les yeux de leurs parents, amenés dans les prisons. Mais tout le peuple est en train de sortir dans la rue. Ça m'étonnerait que tout le monde finisse en prison. Longue vie à la Tunisie et merci les AMG. Bon courage.
C'est une excellente idée de s'intéresser à la question du logement aujourd'hui et le reportage à Garges-Léonesse était extrêmement intéressant et très instructif. Mais je voudrais poser la question de droit au logement. En France, on a établi le droit à l'éducation, le droit à la santé, et on a déjà discuté depuis quelque temps d'un droit au logement gratuit de base, qu'il soit assuré qu'aucun citoyen vivant sur le territoire français ne sera obligé de coucher dehors. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas se reposer cette question-là à côté du problème de toutes les formes de logements qui sont aujourd'hui très souvent abusives, qu'il s'agisse de ces logements sociaux avec des charges très élevées, qu'il s'agisse des copropriétés avec également des charges en tout genre. Enfin, finalement, les Français sont exploités sur la question du logement d'une façon éhontée. Donc si on arrivait à conquérir un logement de base gratuit pour tous, au-delà duquel chacun pourrait soit s'en contenter, soit payer plus, on commencerait à peut-être résoudre ce problème crucial. Au revoir, merci.
Oui, alors, je suis en train d'écouter le reportage de Charlotte Perry sur la rénovation urbaine, reportage très intéressant. Mais j'ai juste un petit reproche à lui faire. Elle dit que le quartier de la Muette est un quartier sensible. Ben non, c'est pas un quartier sensible. C'est un quartier pauvre. C'est pas un quartier où les gens sont non plus défavorisés. C'est un quartier où les gens sont exploités. Travailleurs précaires, travailleurs pauvres, chômeurs dont le rôle est de faire peur aux actifs, etc. Méfions-nous de la sémantique que la classe dominante nous impose pour désigner la réalité sociale. Si on dit que les habitants du quartier de la Muette sont des exploités, on comprend bien que quelque part il y a des exploiteurs. Mais si ce sont des défavorisés, alors là, c'est finalement qu'ils n'ont pas eu de bol. Et alors si en plus c'est un quartier sensible, c'est carrément de leur faute. Et ils n'ont qu'à pas être aussi cons. Voilà.
Moi, je voulais réagir à l'émission sur l'ANRU. Moi, je suis élu d'une petite commune de 15 000 habitants qui bénéficie d'un programme ANRU. Alors, je sais pas, il y a peut-être des problèmes spécifiques à la région parisienne, ça c'est certain. Mais ici, bah écoutez, nous on est ravis de ces programmes. On va remplacer trois bars vraiment dégueulasses qui datent des rapatriés d'Algérie. Un quartier complètement enclavé. Plus moyen de faire de la réfection, des trucs immenses, sans âme, de 14 étages. Eh ben écoutez, nous on va reloger les habitants, la majorité sur la commune, une autre grosse partie sur toute l'agglomération. Alors, c'est une petite aglo autour de Nancy. On va essayer de faire des logements relativement corrects. Il y aura un nouveau centre social avec une crèche intégrée. Parce que l'actuel centre social, eh ben écoutez, il n'y a plus rien qui tient debout. On a un petit peu honte d'y rentrer. Donc voilà, je crois qu'on a peut-être attendu un peu trop longtemps avant de refaire toutes ces barres, peut-être également dans la région parisienne, parce qu'a priori c'est assez dramatique lorsque j'entends le reportage. Et alors peut-être qu'il y a des idées mercantiles, que les marchands d'immeubles se font beaucoup de beurre dans ces petites choses-là. Mais bon, moi j'espère que ça va faire bénéficier la majorité de notre population de logements un peu plus propres. Et puis vous connaissez le proverbe, traitez-les comme des animaux, ils se conduiront comme des animaux. Alors on espère qu'en leur donnant quelque chose d'un peu plus agréable à vivre, sans dire qu'ils se comporteront mieux, ils se sentiront déjà beaucoup mieux et un peu plus intégrés. Voilà. Bonne journée à tous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui sur France Inter, c'est la journée spéciale du journalisme. Et je vais en profiter pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs citoyens qui écoutent l'émission Là-bas chez J'y suis. En fait, on est tous un petit peu journalistes quand on a l'esprit critique, ça c'est mon avis. Je voulais souhaiter une bonne année et remercier toute l'équipe de Là-bas si j'y suis, tous ceux qui sont derrière les micros, derrière les claviers, aux répondeurs, aux manettes, et en fait qui contribuent à la qualité de cette émission. Et puis pour finir, une bonne année à toi, Daniel Mermet, journaliste souffleur de braise. Voilà, j'ai trouvé cette expression, je trouve qu'elle te va bien. Parce que tes émissions, en fait, elles contribuent à allumer cette petite flamme qu'on a tous en nous, qui permet de garder cet esprit de curiosité et de résistance. Bravo et merci, merci, merci pour tes émissions. C'était Jean-Pierre de Grenoble.
Merci, merci, merci pour ces compliments. Merci, merci, me voilà allumeur de braise et merci à vous, chers AMG. Et merci pour les nombreux messages qu'on a reçus au sujet de l'ANRU, au sujet de cette agence nationale de réforme urbaine, de reconstruction urbaine, de restauration urbaine. C'est ça qui nous intéresse beaucoup, qui vous intéresse beaucoup. Effectivement, où en sommes-nous de cette histoire commencée en 2003 et relancée en 2005 suite aux fameuses émeutes de l'hiver 2005? Il semble que le bilan soit assez mitigé et pourtant des fonds importants ont été investis, ont été avancés, ont été engloutis dans cette histoire, dans cette affaire, avec sans doute évidemment ce que dit l'adjoint au maire, je crois que c'est un adjoint au maire qui vient de nous parler, que dans certaines situations il y a d'indéniables améliorations de la situation. Dans beaucoup d'autres, le bilan est mitigé. Et puis, ce à quoi on assiste, c'est un petit embourgeoisement des us des zones urbaines sensibles. Un petit embourgeoisement, c'est-à-dire que, on se sépare des populations des populations fragiles, des populations en difficulté. Le mot sensible est un euphémisme tout à fait hypocrite pour dire pauvres, tout simplement. Eh bien, on s'en sépare et on les rejette. Et c'est un phénomène d'élimination par projection dans la périphérie, on pourrait dire. Hein. On va voir ça aujourd'hui en allant à Meaux. Vous voyez, ça vous évoque quelque chose. Meaux, et oui, c'est synonyme de Jean-François Copé, celui qu'on appelle le Roitelet de Meaux, avec Charlotte Perry. On va aller faire un tour dans cette bonne ville de Meaux. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Un petit message pour rappeler aux AMG de l'Ardèche et de la Drôme que le rendez-vous du repère de Saint-Péret pour le mois de janvier aura lieu lundi 10 à 20h, toujours à l'hôtel Badet, à Saint-Péret. Voilà, je compte sur vous. À bientôt, venez nombreux. Et je vous attends. Ciao, ciao, c'était Cyril d'Ardèche.
Oui, bonjour Daniel, c'est Vocule, là. Je téléphone profitant du générique. J'aime pas beaucoup qu'un autre se fasse passer pour moi. Même par fantaisie. Merci.
Chers AMG, le repère de Vienne, dans l'Isère, fait sa rentrée. Et quelle rentrée! Ce vendredi 7 janvier 2011, en partenariat avec la librairie Luciole, nous allons faire une petite immersion dans la France d'en haut. Monique Passon-Charlot et Michel Pinson, le temps d'une soirée, posent leur valise d'explorateurs sociologiques à Vienne pour éclairer nos lanternes sur les thèmes qu'ils abordent dans leur dernier livre intitulé « Le président des riches, enquête sur l'oligarchie de la France » de Nicolas Sarkozy. Tout est dans le titre. Une soirée conférence débat donc autour d'un format un peu original et bien sûr ouverte à tous. C'est où? Eh bien à Vienne, dans l'Isère, à l'amphi Agora de Robin ou un Courbrier en face de l'office de tourisme. Avec qui? Ben avec vous bien sûr. Allez, pour plus d'infos, un petit mail à ici-nous-y-sommes@gmail.com. À vendredi les amis, ciao viva.
Bonjour à tous les AMG. La mobilisation citoyenne contre le projet de centrale à Monchy-au-Bois dans le Pas-de-Calais continue. Grand rassemblement ce dimanche à 11h sur la place du village de Monchy-au-Bois. Tous ceux qui se sentent concernés par la casse du service public de l'énergie, pour leur santé et pour la protection de l'environnement, sont les bienvenus. À dimanche.
Bonjour Monsieur Mermet. Imaginons, la France est à l'origine de la création d'un mouvement populaire mondial pour dire non à l'oligarchie. Quand est-ce qu'on crée ce mouvement populaire? Je ne sais pas, avec Stéphane Hessel et Hervé Kempf, un mouvement populaire mondial pour terrasser l'oligarchie, la politique des gouvernements, avant que ce soit eux qui nous terrassent. On est nombreux à être révoltés, indignés, on est plus nombreux qu'eux. On n'a juste qu'à s'unir, comme disait le bon vieux Karl. Ça me paraît sauter aux yeux. Quand est-ce qu'on crée ce mouvement populaire?
Meaux et le pays de Meaux disposent d'un patrimoine riche et d'une histoire datant de l'époque gallo-romaine. Que vous soyez meldois ou juste de passage dans notre belle ville, l'Office du tourisme est là pour vous informer au sens large.
Voilà, vous informer au sens large, c'est là-bas si j'y suis aujourd'hui avec Charlotte Perry, les petits séparés et les grands ensembles.
Vous êtes bien en communication avec la mairie de Meaux. Veuillez patienter quelques instants. Merci.
Cabinet du maire de Meaux, bonjour.
Oui, bonjour madame, je cherche à joindre Jean-François Copé.
Patientez une minute.
Je vous remercie.
Vous êtes bien en communication avec la mairie de Meaux. Veuillez patienter quelques instants. Merci.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour madame.
Bonjour madame, je cherchais à joindre Jean-François Copé.
Oui, vous pouvez m'en dire un petit peu plus?
C'était à propos de la démolition envisagée des tours du quartier A de Beauval.
D'accord. Est-ce que vous parlez bien des coutures du quartier? Parce qu'elles seront certainement démolies qu'en l'horizon 2013-2014.
Oui.
D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire un petit mail, en fait, pour me dire exactement ce dont il retourne?
D'accord. Non. Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, chère madame, j'aurais souhaité m'entretenir avec Monsieur Copé au sujet de la démolition programmée des tours du quartier A de Beauval. J'aurais souhaité savoir s'il était bien raisonnable d'envisager la démolition de 1600 logements sociaux en bon état et en cours de rénovation, en pleine crise du logement. Et si le coût de ces démolitions n'était pas du gaspillage d'argent public, étant donné que ces tours pourraient parfaitement être réhabilitées. Enfin, j'aurais souhaité savoir si la diminution de la part des logements sociaux à Meaux, qui est passée de 53% à 46%, faisait partie de votre projet de faire de Meaux le, entre guillemets, je vous cite, le Saint-Germain-en-Laye de l'Est parisien. Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien à vous, Charlotte Perry.
Ah, voilà les questions que se pose Charlotte Perry au sujet de Meaux, une ville parmi d'autres. Une ville parmi d'autres, pas tout à fait. Le maire est un personnage public de tout premier plan et de tout premier rang, avec un programme d'urbanisme extrêmement audacieux et extrêmement fort, puisque entre 1990 et 2010, 2900 logements auront été démolis dans la zone, dans la ZUS. Le choix s'est fixé sur les immeubles les plus dégradés, soit les caravelles de Beauval et les bars et les tours de la Pierre Collinet. D'ici à 2013, 2350 logements seront reconstruits et plus de 5000 réhabilités. On voit que ce sera la même chose, on démolit pour reconstruire. Et effectivement, on se dit, pourquoi donc faut-il démolir pour reconstruire? On se souvient de la naissance de l'ANRU en 2003-2004, on se souvient 2005, 10 000 voitures brûlées, un état d'urgence, une facture des émeutes estimée à 200 millions d'euros, et que fait le gouvernement? Demandait-on. Eh bien, le gouvernement a lancé alors un plan Marshall pour les banlieues. 30 milliards pour casser les ghettos. De 2005 à 2010, 4500 démolitions. On démolit, mais on reconstruit en mieux, à taille humaine. Fini les bars, fini les tours, fini les ghettos. Dans ces ghettos, dans ces zones urbaines sensibles, 4 500 000 Françaises et Français vivent, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il faut rappeler qu'on a environ 7 millions de personnes en France qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Bien, dans les zones urbaines sensibles, ils sont 4,5 millions. Le chômage y est de 17%, on le disait hier, on le rappelait, pour les dans la jeunesse, tout ça est beaucoup plus élevé encore. Là, je me réfère à un rapport tout récemment publié par deux députés, l'un PS, François Pupponi, qu'on a entendu hier dans le reportage de Charlotte, et François Goulard, UMP. Eh bien, le bilan qu'ils font, 5 ans après les émeutes de 2005, c'est pas brillant. Le résultat est très mitigé. La pauvreté n'a pas diminué du tout dans ces quartiers. Entre 2005 et 2010, le taux de chômage s'est plutôt au contraire dégradé. Aucun progrès côté retard scolaire. Une petite amélioration du côté de la création de zones franches et une amélioration du côté de la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'on a indéniablement amélioré le cadre de vie. C'est le point de vue de ces deux députés qui ont donné ce rapport. Pourtant, on peut pas dire que ces programmes ont manqué de moyens. Pour 2009, le budget serait de 3,7 milliards d'euros, ce qui n'est pas mal du tout. Des moyens ont donc été donnés pour la politique de la ville grâce à l'ANRU, toujours d'après nos deux rapporteurs. Par contre, disent-ils, c'est beaucoup moins remarquable du côté de l'éducation nationale, du côté de la police de proximité, du côté de ces budgets qui, eux, au contraire, sont en réduction. Et oui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans ces domaines, on ne peut pas détacher les secteurs les uns des autres. l'emploi, l'éducation, la santé, la sécurité et l'urbanisme, tout ça, ça va ensemble. Donc, en travaillant sur un seul de ces points, eh bien, on obtient des résultats à peu près inexistants. Inexistants, c'est pas bien sûr. C'est pas bien sûr quand on écoute les analyses critiques de certains spécialistes, ou bien si on va sur le terrain, tout simplement, dans ces zones urbaines sensibles, dans ces quartiers, et discuter tout simplement avec les gens. On s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de petit embourgeoisement, on va trouver ce mot au cours de cette émission, une volonté de petit embourgeoiser ces cités, en faisant sauter ces bars et ces tours, et en remplaçant par des petites maisons assez cossues, assez agréables, assez jolies, maximum de 2-3 étages. De cette façon, eh bien, on supprime, croit-on, les problèmes de délinquance, croit-on, parce qu'en fait, on ne fait que les déporter plus loin, au-delà de la zone considérée. Donc, on ne solutionne pas le problème, bien évidemment, mais on le reporte, on le déporte sans l'éliminer. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas évident, mais on va le voir apparaître au cours de cette heure dans ce reportage de Charlotte Perry, Les Petits Séparés dans les Grands Ensembles. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Yo! Je n'ai foi qu'en une force, celle du peuple, elle est révolutionnaire. Sors dehors, va dans un quartier populaire et regarde, au-delà de l'apparence, des bâtiments insalubres ou des déchets mis en évidence. Tu verras la soif de vivre, c'est ici que l'espoir réside. Pire, c'est ici que l'histoire s'écrit. Les adolescents tapent le ballon dans un square la nuit. Jour de marché ou de barré, regarde la vie. Mille couleurs, plein de formes, mais c'est pas fini. Certains se plaignent des odeurs, n'aiment pas le bruit. Mais que sommes-nous à part des microbes et des bactéries?
Ça faisait longtemps que tu voulais dire ça, hein.
Ben voilà, je l'ai dit.
La révolution amère,
ouais,
ouais, la force est dans le peuple. Qui vois-tu sur les chantiers à 6h du mat? Le cœur à l'ouvrage, quelles sont ces voix cachées derrière les sondages? Tout ça du peuple, celui qui réunit riches et puis minorités, qui vit les difficultés de la réalité. La force est dans le peuple, lorsqu'il est solidaire et mobilisé pour une cause, elle devient révolutionnaire. C'est un fait, et surtout pas une fiction.
Ouais, et malheureusement trop souvent le mot peuple rime avec friction.
La révolution amère, l'évolution dans la paix, mes solutions par la haine, la force est dans le peuple.
Bien.
Alors
promenade.
Donc vous êtes Philippe Vignot?
Oui.
Vous êtes architecte et urbaniste, c'est
oui.
Ça, là on quitte votre cabinet de la mairie des Lilas. Et on va se rendre à Meaux,
oui,
pour une visite de la ville de Jean-François Copé et de la rénovation, mmh, qui a eu lieu là-bas. Mmh. Vous avez travaillé sur combien de projets de l'ANRU, de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine?
Nous avons travaillé sur une vingtaine de sites en France, en région parisienne et puis en région. L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, comme son nom l'indique, fait de la rénovation urbaine, c'est-à-dire beaucoup de démolition et de la reconstruction. Je préférais le terme précédent qui était renouvellement urbain. Le renouvellement urbain supposait que l'on renouvelle la ville sur elle-même, avec évidemment des démolitions lorsque c'est nécessaire, mais aussi de la réhabilitation, de la restructuration. Bref, une démarche beaucoup plus durable qui consiste à refaire la ville sur elle-même plutôt que tout raser pour reconstruire complètement autre chose. J'ajoute que précisément à Meaux, ce qui est quand même extraordinaire, on a cherché jusqu'à effacer complètement les traces des bâtiments. C'est-à-dire que on a voulu complètement oublier, d'ailleurs c'est dit dans certains textes que j'ai pu voir ici et là, on souhaite complètement tourner le dos à un urbanisme qui ne convient pas à la ville de Meaux. C'est-à-dire que l'histoire et la géo sont oubliées au profit d'une vision que personnellement je trouve un peu mythique de la société française, où chacun vivrait en pavillon, comme Giscard d'Estaing le souhaitait, comme Chalandon l'avait souhaité en son temps également. C'est toujours ce mythe que le béton est mauvais, il recèle toute la pauvreté du monde, notamment les Arabes, et qui font des conneries, et qu'en rasant le béton, on va régler la question de la grande pauvreté. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche exactement. C'est pas en rasant les immeubles qu'on donne du travail. C'est pas en rasant les immeubles qu'on forme les gens pour prendre part à la production dans notre pays. Ça marche pas comme ça. C'est une belle journée, non ?
Enfin, c'est un peu gris, un peu neigeux.
Oui, non, mais c'est beau les grands ensembles sous les neiges. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, on va voir ce qu'il en reste. Hein. Ça va être un peu une découverte. Il y a quelques temps que je suis pas allé sur place et j'ai hâte de voir les canons de la ville vus par Copé remplaçant les ignobles grands ensembles. J'attends de voir ça avec impatience parce que ça va être une manière de voir ce qu'il a dans la tête finalement. Quoi. C'est très intéressant de voir quel est son rêve. Comment remplacer un cauchemar par un rêve. Donc on va traverser la Seine-Saint-Denis, un petit morceau de campagne et on arrivera sur Meaux, cette charmante bourgade.
Vestiges gallo-romains, cathédrales ou encore palais épiscopal, l'héritage du pays de Meaux est particulièrement riche. Et c'est justement pour le découvrir et l'apprécier à sa juste valeur que le service patrimoine a été créé. Une mission qu'il remplit parfaitement avec des visites guidées pour les touristes et les Meldois. Appréhender cette richesse historique, c'est surtout se donner la peine de découvrir les trésors du centre-ville. Jeune ou moins jeune, touriste ou habitant de Meaux, pour connaître votre histoire, le service patrimoine est à votre disposition. Renseignez-vous auprès de l'Office du tourisme.
Là, on rentre dans Meaux, en fait.
Là, nous rentrons dans Meaux, nous descendons vers le canal qui doit se trouver pas très loin, là. Et puis, alors, sous cette gelée, regardez la cathédrale derrière et la mairie, presque aussi fière que la cathédrale. Donc, nous allons traverser toute la ville ancienne pour aller vers les quartiers qui se trouvent à l'autre extrémité de la ville de Meaux.
Quartier Beauval, quartier Dunant. Parce que je crois que la pierre collinée a été rebaptisée quartier Dunant.
Oui, on est vraiment comme en cas de guerre. C'est-à-dire qu'on rase les bâtiments, on fait disparaître jusqu'aux traces, et puis on gomme le nom et on renomme pour faire disparaître toute trace de cette civilisation que l'on souhaite détruire. C'est une attitude de Hun, de Goth, de Visigoth. Bon, voilà, j'ai pas la nostalgie des grands ensembles en tant que tel. Je suis inquiet par la méthode qui est employée, les démolitions systématiques, qui est quelque chose d'épouvantable. On raye de la carte jusqu'à la toponymie et on déplace les gens. Vous imaginez bien que c'est pas sans violence. Alors, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Voilà ce qui est dans la tête du maire de Meaux, c'est-à-dire des petites maisons avec rez-de-chaussée et un étage. Une petite clôture, une petite boîte aux lettres et les garages. On a mis les garages par plot avec une voirie qui vient de doubler la voirie existante. Et les rues se multiplient. Voilà. Donc pour desservir tout ça, on fait de la voirie, de la voirie, de la voirie, de la voirie. Donc on met du pétrole, on met des réseaux, on met des bagnoles. Vous voyez un peu la densité qui est installée, la proximité, parce que vous avez une trentaine de logements qui utilisent la place d'un bâtiment d'une centaine de logements. Donc le territoire est à la fois gaspillé et en même temps, on a installé les maisons dans une proximité. Il y a quoi entre ces deux maisons? Il y a 2 mètres maximum, vous vous rendez compte? C'est une promiscuité. Donc voilà, le quartier est modifié surtout par soustraction et ensuite par éparpillement. On démolit, on éparpille. Aux quatre coins de Meaux qu'on va aller retrouver les pauvres. Là, on est entre les deux quartiers, on est entre Beauval et Collinet, de part et d'autre du canal.
C'est marrant parce que d'un côté, il y a les tours qui n'ont pas encore été démolies, et en face et au pied, les nouvelles constructions.
Ben on voit ce que demain sera, puisqu'on propose donc de tout raser pour construire la même chose en face. Et regardez, on le voit, c'est assez clair ici, là, vous avez entre les tours, vous avez des espaces libres avec des grands arbres. Quand vous regardez de l'autre côté avec ce qu'ils ont construit, vous avez des petits bâtiments à 4 niveaux avec des toitures et finalement plus d'espace. On a fait dans un quartier de 20 000 habitants, on a utilisé un archétype villageois de toiture, comme si on pouvait remplacer un grand ensemble par un mythe villageois. Et donc on est sans doute dans le rêve urbain du maire de Meaux.
Allô ?
Oui, bonjour.
Je vous passe Monsieur Copé. Merci.
Vous êtes bien en communication avec la mairie de Meaux. Veuillez patienter quelques instants. Merci.
Allô ?
Oui, bonjour.
À nous.
Vous avez annoncé la démolition des tours du quartier A de Beauval pour l'horizon 2013-2014. Donc voilà, pourquoi vouloir démolir des bâtiments qui ont été rénovés, qui sont en bon état, plutôt que de les réhabiliter?
Oh, c'est très simple. Je pense qu'on a, on en a un peu terminé maintenant de ce débat pour savoir si on doit démolir et reconstruire ou bien réhabiliter. Je crois qu'il y a des fois où il faut réhabiliter, puis il y a des fois où les conditions de vie et d'habitat posent trop de problèmes, et on sait très bien que c'est pas en déployant des millions pour refaire les cages d'escalier qu'on réglera le problème. Voilà. Donc il y a des endroits où j'ai réhabilité et des endroits où on a pensé qu'il fallait démolir, et c'est le cas du quartier A. Pourquoi ? Parce que c'est un quartier qui est extrêmement dense, qui concentre un grand nombre de problèmes humains, sociaux, économiques, familiaux, et du coup ça conduit à des dégradations d'espaces publics, etc. Et donc ça, c'est, si vous voulez, moi ce que je souhaite, c'est que mes administrés, quels que soient les quartiers où ils habitent, eh bien, ils aient droit à une même qualité de vie et à de bonnes conditions de vie. Or le quartier A aujourd'hui, du fait de cette situation, est en train de s'isoler du reste de la ville. Voilà. Et comme dans le même temps, les autres quartiers qu'on a rénovés ou démolis, reconstruits, ont donné vraiment des résultats formidables, eh bien l'idée, c'est que avec notre équipe municipale, on veut, dans l'horizon 2014-2015, aller vers une démolition et reconstruction sur ce quartier, comme on l'a fait sur les autres, à une condition, évidemment, c'est de le faire avec tous les habitants du quartier, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de faire une réflexion collective.
Mais est-ce qu'il y a un lien entre les cités HLM, où c'est 100% de logement social, et une forte délinquance ?
Des liens, oui, quand même un peu. C'est vrai que nous, historiquement, c'est plutôt à Beauval et dans l'ancien quartier de la Pierre-Collinet qu'on avait les taux de délinquance très élevés. Mais en même temps, maintenant qu'on a mis des caméras de vidéosurveillance un peu partout dans la ville, la délinquance, elle a baissé dans des proportions fortes. On était à 115 crimes et délits pour 1000 habitants en 2004. On est aujourd'hui à 68 crimes et délits pour 1000 habitants. Vous voyez, donc c'est vous dire que ça a quand même énormément baissé grâce à tout ce qu'on a mis en place. Globalement, le fait d'avoir cassé ces tours pour mettre à la place un habitat à taille humaine, des immeubles de 4 étages, de l'accession à la propriété aussi dans les mêmes quartiers, tout ça a beaucoup joué.
Ces tours vont être démolies, même si elles sont quand même en bon état. C'est un peu, ça semble un peu choquant quand même de démolir des tours qui sont,
bah écoutez,
mine de rien, en bon état.
Je vous propose de voir si on peut vous offrir un mois gratuit avec la personne de votre choix pour que vous veniez habiter là, et puis on en reparle après. Si vous êtes une maman avec des enfants et que vous avez une dizaine de voyous qui vous narguent sans qu'on puisse intervenir parce que le bâtiment est tellement grand. Donc c'est vrai qu'on a fait un peu de réhabilitation, mais que ça n'est absolument pas au niveau de ce que l'on peut attendre pour des administrés sur lesquels je veille et pour lesquels je trouve tout à fait normal qu'ils puissent aspirer à un habitat de bonne qualité. Voilà. Et que c'est ce que demandent les habitants.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Ainsi, à Meaux, entre 1990 et 2010, 2900 logements auront été démolis. On connaît maintenant cette scène classique, c'est le reportage classique, la population qui est là en train de voir ces tours qui explosent avec les émotions, la larme à l'œil et les souvenirs. C'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de violence. On parle de Meaux, 2900 logements qui ont été ainsi, qui auront été ainsi détruits, c'est beaucoup de violence pour ceux qui y ont vécu. Et on voit bien dans cette réponse du maire de Meaux qu'il s'agit quand même bel et bien de se débarrasser de la délinquance et des délinquants dits voyous. Justifierait-il la destruction d'une tour? Pour Jean-Pierre Garnier, qu'on a rencontré hier, qui est un sociologue, qui est un urbaniste, qui est un chercheur au CNRS, pour lui, rénovation égale relégation. La rénovation entraîne des relégations indéniables, amélioration pour certains de l'habitat. Et ces certains-là sont ceux que Jean-Pierre Garnier identifie à ce qu'il appelle la petite bourgeoisie intellectuelle.
Alors, le plan Ladrus a été lancé, ça a démarré sous Raffarin. C'est quoi là, ce nouveau plan? L'idée est très simple, c'est-à-dire qu'on pense que, officiellement je veux dire, pas moi, que l'une des raisons pour lesquelles la situation n'est pas contrôlable, c'est en raison de la trop grande concentration de la population à problème. Et donc, il faut disperser cette population. D'abord, l'avantage que ça peut avoir, c'est qu'elle sera moins visible si elle est dispersée. Hein, la pauvreté. En France, on ne lutte pas contre la pauvreté réellement. Ça voudrait dire qu'on change complètement de cap politique. Avec l'Europe et la mondialisation capitaliste, c'est pas possible. Donc, au lieu de lutter contre la pauvreté, on va lutter contre les pauvres. Alors, les pauvres, on va les disperser. On va les disperser plus loin dans l'agglomération. Il faut quand même signaler aussi, ça a été dit, que la majeure partie de la population pauvre en France ne vit pas dans les cités. Elle vit fondamentalement dans ce qu'on appelle le périurbain, c'est-à-dire ce qui est tout proche de la proche banlieue, hein, la deuxième couronne, troisième couronne, et elle vit de plus en plus dans les zones rurales. Néanmoins, il reste un gros contingent évalué, si on prend les 700, je ne sais plus où elles en sont, 751 zones sensibles, ça comprend entre, selon les découpages bureaucratiques, entre 3 800 000 habitants et 4 200 000. La majeure partie des pauvres sont en plus, mais ils sont plus nombreux que c'est même 4 200 000. Mais néanmoins, cela crée des problèmes parce que ce sont des pauvres dont les enfants remuent beaucoup. Et puis on les voit. Et il faut parler d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On essaie de les disperser et de remplacer les tours et les bars où ils sont parqués pour les transformer par des petits immeubles avenants avec une architecture beaucoup plus à l'échelle humaine. Et dans l'espoir d'attirer, pour remplacer les pauvres, les gens dont la présence est jugée superflue dans ces quartiers-là, par des gens appartenant aux couches moyennes. Frange inférieure, moi j'appelle ça la petite bourgeoisie intellectuelle, ceux qui travaillent dans l'éducation, dans le travail social, qui ont un emploi stable dans les emplois de service. Donc, il y a un processus de nettoyage partiel des banlieues, entre guillemets, donc des cités d'habitat social, pour mélanger un peu plus les pauvres et les moins pauvres. Et il y a un concept au sens publicitaire du terme, pour définir cela, ça s'appelle la promotion de la mixité sociale. Sous-entendu, si on rapproche les gens, eh bien, ça va créer des contacts. Toutes les études sociologiques depuis les années 70 montrent que c'est faux. Quand on rapproche des gens de milieux totalement différents, ça crée des tensions encore supplémentaires, mais ça fait rien. Et par tous ces moyens-là, premièrement, on s'aperçoit une chose, quand on examine de près les résultats, du moins ceux qu'on a actuellement, c'est que ça se solde effectivement par le départ d'une partie des couches populaires vers une lointaine périphérie. Et aussi bien, lorsque évidemment on fait imploser un immeuble et exploser, on ne va pas les reloger sur place, sauf une petite partie. Et là, il y a un tri qui est avec les services de la mairie, ici avec qui collabore évidemment avec la police pour savoir qui est-ce qu'on garde et qui est-ce qu'on vire. Les charges augmentent, le loyer augmente souvent. Et ça pour résultat de faire dégager des gens qui ne peuvent pas les payer. Donc c'est un processus, on peut dire, de tri social destiné à en petit bourgeoisie, je ne veux pas dire en bourgeoisie, il n'y a pas des bourgeois, ils ne sont pas du tout dans ce coup-là, en petit bourgeoisie, les zones d'habitat populaire dans la proche banlieue. La rénovation urbaine, eh bien, c'est très simple, il s'agit en fait de rénover l'habitat pour renouveler la population.
Elle s'appelait Capucine et elle avait presque 40 ans. Cette barre de 15 étages de Meaux disparaîtra à 14h.
France 3.
C'est le troisième immeuble du quartier de la Pierre-Collinet qui va ainsi disparaître.
20 septembre 2000.
Nous retrouvons tout de suite à Meaux en direct Jean-François Copé, le maire de la ville. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez assister, je suppose, à l'implosion de la tour. Qu'éprouve-t-on à ce moment-là?
Ah, c'est un moment d'émotion. Vous savez, c'est une étape de l'histoire du quartier qui est en train de se dérouler. Et je crois que c'est vrai qu'aussi bien pour les habitants que pour leur municipalité, c'est un moment important.
Alors, des îlots résidentiels vont être construits dans le quartier. Est-ce qu'ils seront accessibles aux habitants, aux faibles revenus, comme les anciens immeubles?
Ah oui, naturellement. Vous savez, je fais partie des élus qui considèrent que la résorption des quartiers sensibles dans le pays, c'est une priorité nationale. Il faut parler dans ces quartiers de sécurité des personnes et des biens. Il faut aussi parler de la manière dont on peut faire en sorte que les habitants se reparlent, s'écoutent, se comprennent, ce qui malheureusement est un énorme travail pour les uns et les autres. Et puis bien sûr, il faut revoir en profondeur l'urbanisme. On ne peut pas continuer de faire habiter des gens dans des conditions aussi difficiles, des ensembles, des grands ensembles qui sont totalement inhumains, inadaptés à la situation d'aujourd'hui. C'est, pour ce qui concerne Meaux, la deuxième barre que nous démolissons en 3 ans.
Moi, je suis Mireille Renaud, la présidente de l'association ADLB. On est dans le quartier A, ce quartier qui va être détruit dans un temps X.
Alors, nous voilà dans le quartier A avec Mireille Renaud. Cette association, franchement, ne donne pas raison au maire de Meaux, Jean-François Copé, et tâche de nous dire pourquoi.
Et qu'est-ce qu'ils veulent détruire alors
toutes les tours en enfilade, là. Il y a 9 tours, parce qu'il y a 2 autres qui sont plus loin. Donc on est ici à la tour Artois. Alors là, je vais vous emmener chez nos adhérents qui habitent au 10e étage. Les coursives que vous voyez là sont entretenues. Ce ne sont pas des taudis qu'il y a ici. Je suis scandalisée par cette démolition annoncée. Dans l'état, je trouve que démolir des bâtiments qui sont solides, hein, c'est pas quand même des petits bâtiments construits en léger. Et...
C'est assez étonnant comme architecture, que c'est des sortes noyaux, de mezzanines. Ah, des noyaux, d'accord.
Tais-toi, toi. Entrez.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous appelez comment ?
Jean Renard.
Et vous habitez ici depuis combien de temps ?
1977.
Ah, donc juste quand ça a été construit pratiquement ?
Presque, 6 ans après.
Et vous, monsieur, vous faites quoi dans la vie ?
Je suis retraité maintenant. Mais avant, j'étais couvreur plombier. Alors, cherchez pas, si vous cherchez ma femme, j'ai plus de femme. Elle est décédée. Alors je suis tout seul ici.
Et si c'est démoli, vous iriez habiter où ?
Alors là, sous les ponts. Enfin, vu l'âge, peut-être qu'on me mettra dans une maison de retraite.
Mais vous aimeriez pas aller habiter dans les nouvelles habitations qu'on voit là, à travers votre fenêtre ?
Oh, alors là, vous savez, je les ai vus construire, hein. C'est pas mieux que cela, hein. Et moi, ma retraite ne me supporte le loyer qu'on me fera payer.
Vous avez une retraite de combien ?
Ça s'élève à 1300 euros par mois. Alors, je paye déjà 500 euros ici. Si on fait payer 800 à 900 euros ailleurs, bah, qu'est-ce qui me restera ? Rien du tout. Mais il est certain que un logement comme celui-ci, il va chercher dans les 800 à 900 euros par mois.
Il y a combien de mètres carrés ici ?
Monsieur Renard a un appartement, un T3.
Il y a tout de même quelque chose que je ne comprends pas tellement bien. Ils veulent démolir sous prétexte de faire des maisons à peu près de 3-4 étages. Et ils enlèvent des grandes maisons pour pouvoir agglomérer des petites maisons. Le champion des espaces verts. Là, il voulait des grands espaces verts, mais je crois que maintenant, les espaces verts se réduisent beaucoup. Plus ça va, et moins il y en a.
Bon ben, à bientôt.
C'était un bâtiment depuis longtemps abandonné à la petite délinquance et à tous les trafics que connaissent aujourd'hui les banlieues.
TF1, 10 mars 2002.
300 kilos de dynamite et 4 secondes suffiront déjà à changer tout le paysage de la cité. Une heure plus tôt, autour des détonateurs, les ingénieurs sont aujourd'hui les derniers maillons d'un projet lancé il y a 2 ans et qui, en une décennie, doit réhabiliter le quartier Beauval à Meaux. Un parc urbain doit prendre la place de ce que l'on appelle ici les caravelles.
On a perdu la clientèle qui était la nôtre à l'origine, hein, au début du logement social, hein, notamment dans les années 50-60, quand ça a été construit. On avait une population d'ouvriers, cadres, employés, qu'on a petit à petit vu disparaître. Donc aujourd'hui, il faut redonner les conditions nécessaires au retour de ces populations dans ces quartiers.
Vous habitez ici, dans la tour Aquitaine, monsieur ?
Oui, j'habite ici, dans la tour, là. Et donc vous êtes au courant qu'ils veulent démolir ces tours ?
Oui, oui, ben, je suis au courant, oui, qu'ils veulent faire des nouveaux logements, mais c'est pas intéressant pour des petits comme nous, quoi. C'est intéressant pour ceux-là qui ont des salaires gros, quoi, et qui peuvent faire leur fin de mois, mais nous, on a du mal à faire la fin de mois, donc c'est dur, quoi. Depuis 7-8 ans, c'est toujours pareil, des contrats, 20h, 20h, 26h. Là, j'ai travaillé à Horizon. Bon, là, j'ai eu un petit bonheur, c'est que j'ai travaillé pendant 2 ans quand même en 35 heures. Je devais être embauché pour être agent d'entretien des espaces verts. Et Mme Durand est partie à la retraite et M. Cattel qui a repris, maintenant, il ne fait que de l'insertion. Des personnes qui sortent de prison ou des trucs comme ça. Donc nous, on a été, alors soit ils nous gardaient avec un 20h ou alors on était dehors, sans travail. Et il n'y a pas le choix, c'est soit qu'on prend les 26h ou on prend rien du tout. Je suis parti d'ici, maintenant je travaille dans la maçonnerie et je fais que 26h. Ça fait 500 et quelques euros. Et après, bon bah, il faut se débrouiller quoi, pour finir le mois. Ou alors ben, faire des petits travaux à côté chez des petites vieilles, travailler un petit peu dans les jardins chez des personnes âgées, les aider. Et sinon, on ne peut pas y arriver. Donc moi, je suis pour qu'on garde ces logements-là, mais c'est vrai que bon, ça serait plus intéressant, plus joli d'avoir des petits logements comme ça. Mais bon, les loyers ne sont pas les mêmes. Et là, je crois que les trois quarts... Ils vont être achetés voilà, en copropriété. Donc ce n'est pas, pour des petits comme nous. Tant qu'on aura les tours comme ça, ça ira. Mais le jour qu'il n'y aura plus que ça, ben, nous, on va se retrouver dehors. Et moi, j'ai quand même 55 ans. Donc, alors ça sera soit ça ou la maison de retraite à 60 ans. Et la maison de retraite à 60 ans, ben, on n'aura pas assez pour payer.
Voilà.
Oui, et puis la maison de retraite, ça coûte cher. Donc à 65 ans, on va se retrouver dehors, clochard. Voilà.
Voilà, processus de tri social, disait Garnier, nettoyage social, purification sociale, le mot est fort, mais la lutte contre les classes dangereuses, c'est-à-dire les classes pauvres, est une vieille coutume. Une vieille opposition aussi, quand même, c'est l'opposition dans ces zones appelées d'urbanisme de sensible. J'arrive pas à me faire à ces mots, ces euphémismes, ces formules hypocrites. C'est l'opposition entre les pavillons, les pavillonnaires et les HLM, ce qu'on appelait les HLM. Il y a une vieille opposition entre ces deux formes d'habitat et ces deux catégories d'habitants. Ça semblait réglé dans les années 70. La barre, la tour avait trouvé, la cité avait trouvé ses lettres de noblesse. On s'apercevait qu'on y vivait bien. On avait tout un projet de vie nouvelle qui échappait à la forme du petit pavillon replié comme ça sur soi-même. Eh bien, là, on voit que la tension entre ces deux formes d'habitat et les deux catégories sociales différentes que cela détermine, continue.
Ça, c'est le centre Louis Aragon ?
Louis Aragon.
Ah, c'est quoi
que je... ben, c'est un centre municipal, social, mais municipal.
Bonjour madame. Vous habitez le quartier ?
Oui, mais moi j'habite dans la zone pavillonnaire.
D'accord.
Mais je trouve que oui, il faut démolir ces grands ensembles parce que on met tous les gens. Les gens nécessitent tout le monde ensemble et puis ils s'intègrent pas bien. S'ils étaient mélangés avec des gens qui travaillent, ils arriveraient plus à s'en sortir.
Vous êtes favorable à la démolition des tours,
oui. Des grandes tours, oui. Pas les petites, mais les grandes, oui. Moi, je trouve que... Puis moi, j'aime pas. Alors, j'habitais Paris, j'aime pas les tours. Alors, oui, non, puis c'est surtout une question pour les gens aussi. C'est pas agréable. Hein, on entend le voisin, tout ça, quand c'est trop grand, c'est pas agréable. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis pour les petites maisons.
Le problème, c'est qu'il faudra en construire beaucoup, des petites maisons pour...
Bah, ils ont fait là, c'est bien ce qu'ils ont fait là. Des maisons de 2-3 étages, c'est très bien. Comme ça, les gens, il y a un peu de tout. Tandis que là, ils mettent tout le monde, tous des cas sociaux ensemble. Alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Rien de bien. Et c'est ce que je pense. Hein. Voilà. Merci.
Merci.
Au revoir.
Tu marches la tête baissée avec la peur de regarder le quartier, le ghetto français. D'un ghetto français, immeuble délabré ou soi-disant rénové. Les choses ne changent pas, la tension est toujours là. On modifie la forme, mais dans le fond, quels sont les résultats? Les halls sont toujours remplis de dealers de chi, les rues de scooters volées de mauvais esprits la nuit. Si la plupart des jeunes tournent mal, c'est qu'ils ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Le mal, principale cause, s'impose la misère, suivie de près, sinon devancé par le poids d'un échec scolaire. On n'a pas tous eu la chance d'avoir une famille soudée, toujours à l'écoute derrière vous, prêt à vous aider. Les mères ne savent plus quoi faire, débordés sont les pères. Un jeune sur deux ici possède un casier judiciaire. Putain merde, c'est la merde dans mon quartier. Tu veux vérifier, enfoiré, viens vivre au milieu d'une cité.
Donc je suis Philippe Tirlog, commissaire divisionnaire et commissaire central à Meaux, en Seine-et-Marne.
Voilà, un commissaire qui arrive à la fin de ce reportage. Pourquoi donc? Eh bien, c'est que désormais, la police est de plus en plus présente dans l'urbanisme des cités sensibles. Désormais, on a entendu Jean-François Copé parler de la sécurité, la sécurité, la sécurité. Il est très fier des caméras de vidéosurveillance qui, un peu partout dans sa bonne ville de Meaux, la sécurité est très importante. Et les urbanistes et les architectes doivent désormais tenir compte et se plier aux règlements de sécurité imposés par la police et éventuellement par les préfets.
Oui, donc avant d'occuper ce poste à Meaux, j'occupais donc un poste au ministère de l'Intérieur, plus exactement à la direction centrale de la sécurité publique. Et je dirigeais principalement un bureau qui était en charge de ce que l'on appelle le conseil en sécurité urbaine, c'est-à-dire tout ce que la police nationale peut apporter pour améliorer l'aménagement des quartiers, d'une manière générale, les aménagements urbains.
Alors vous, du coup, si vous êtes devenu commissaire de Meaux, c'est pas tout à fait hasard, parce que par exemple Jean-François Copé en 95, quand il est devenu maire de Meaux, il avait deux axes prioritaires, c'était à la fois la sécurité et la rénovation urbaine, et quelque part vous conjuguez les deux.
Alors mon arrivée à Meaux n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est vrai que je suis particulièrement heureux d'être là, parce que je peux vraiment mettre aujourd'hui en pratique ce que j'ai essayé de mettre en œuvre pendant mes 3 années et demie passées au ministère de l'Intérieur. Alors en fait, il s'agit de mettre en place ce que l'on appelle, nous, la prévention situationnelle. Alors qu'est-ce que c'est que la prévention situationnelle? Classiquement, dans les services de police, on s'occupait d'une matière qui s'appelait la prévention opérationnelle, prévention qui s'occupait principalement des individus. Maintenant, on a mis en place une nouvelle prévention qui s'appelle la prévention situationnelle, qui, elle, s'attache aux actes.
Concrètement, c'est quoi, par exemple?
On regarde les toits, par exemple. On sait que dans les quartiers les plus difficiles, les toits plats favorisent le stockage d'objets divers qui pourront être projetés après sur les forces de l'ordre. Donc on préfère, sur certains sites, suggérer aux promoteurs de doter les immeubles de toits pentus qui, eux, sont beaucoup plus sécures pour les interventions de police. Très souvent aussi, on est confronté dans les quartiers à des phénomènes de regroupement de jeunes. On s'est quand même aperçu que certains regroupements de jeunes, certains attroupements, pouvaient s'expliquer par la configuration des lieux. Par exemple, quand sur un bar d'immeuble, vous avez par exemple une entrée qui dispose d'un préau, pour peu que ce préau soit, comme vous l'avez sur cette photo par exemple, accompagné d'un petit muret en brique, là vous avez toutes les conditions nécessaires pour permettre à des attroupements de se réaliser en leur permettant de s'asseoir et en étant à l'abri grâce au vent, notamment par temps de pluie. Voilà. Alors, ce qu'on veut, attention, c'est pas supprimer les auvents, c'est plutôt que de mettre des auvents fixes en béton, comme ça se faisait souvent par le passé, de prévoir des auvents rétractables, comme ça, lorsque le magasin est fermé, eh bien, il n'y a pas de tentation de venir s'agglutiner de manière continue, et notamment période de pluie, et donc gêner l'environnement.
Enfin, ça revient un petit peu ce qu'on voyait déjà auparavant, qu'on avait vu avec les pigeons, mettre des pics pour pas que les pigeons, vous savez... s'installe et...
Absolument, la prévention situationnelle, ce sont des mesures de bon sens. Alors sur Meaux, c'est d'autant plus visible que ça passe aussi par des opérations de destruction de tours. Lorsque vous voyez nos deux quartiers donc de la ville de Meaux, quartier Beauval et Dunant, on n'a plus des tours de 15 étages totalement insécures. On a des bâtiments à 3 ou 4 étages grand maximum. Et effectivement, ça a quand même beaucoup changé le cadre de vie. On est vraiment dans une logique de coproduction de la sécurité. Chacun a son rôle à jouer, sans jeu de mots, sa pierre également à poser à l'édifice, de manière à ce qu'on rende toutes nos dispositions, toutes nos politiques publiques cohérentes. Donc on est maintenant quand même dans une situation où le secteur du bâtiment et des travaux publics est quand même dans une obligation de bien faire. Donc maintenant, de plus en plus de constructions seront astreintes à la réalisation de cette étude.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien ?
Ça va et vous ?
En fait, on est contre tout à fait sur les démolitions des bâtiments. En fait. Sinon, il n'y aura plus de logement social. On va où reloger justement ? On est tous des ouvriers, on travaille, donc on ne gagne pas les 3000 euros, on gagne les 1000 euros. Ben, je travaille dans un usine qui s'appelle KPA, comme agent de fabrication. Là, ils demandent les rénovations. Ils ont augmenté 20 euros. Ils disent pour les rénovations, il faut que vous payiez. En fin de compte, on ne savait même pas qu'il s'était augmenté. Je regarde mon quittance de loyer, je vends 20 euros. Un seul coup, je suis parti le voir. Quand est-ce que vous avez décidé ça ? Ben, écoute, il m'a dit c'est comme ça. Soit vous payez, soit vous sortir.
Vous, votre appartement, il est en bon état ou...
Il est très bon état, propre, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ils ont des soucis par rapport aux jeunes qui ont squat en bas le bâtiment, je suis d'accord. Il y a des soucis par rapport à ça. Mais ça ne va pas être démolissé par rapport aux jeunes. On ne va pas démolir 188 logements par rapport aux jeunes. Attends, ils ont installé une caméra devant, une caméra derrière. Malgré tout ça, ils sont toujours là, les jeunes.
Ils ont installé des caméras de vidéosurveillance partout ?
Partout. Là, vous avez une caméra. Derrière gros arbre, là, vous avez une caméra. Et derrière ce bâtiment, vous avez juste à la rentrée une caméra. Et malgré tout ça, tout le temps sont là, les jeunes. Bah, bon courage, mesdames.
Merci, au revoir.
Rénovation, relégation, l'élimination par la dispersion. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Philippe Vigneault, Jean-Pierre Garnier, Mireille Renaud, Jean-François Copé, aux habitants de la ville de Meaux. Le livre de Jean-Pierre Garnier, Une violence éminemment contemporaine, essai sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires. Ça a été publié par les éditions Agone en mars dernier. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Là-bas.org. Il y a une petite panne sur là-bas.org. Là-bas.org. Mais ça remarche. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Koye Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter et France Télévisions, partenaires de l'exposition Basquiat jusqu'au 30 janvier 2011 au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est une vaste rétrospective, la première de cette envergure présentée en France à l'artiste américain Jean-Michel Basquiat à l'occasion du 50e anniversaire de sa naissance. Retrouvez l'exposition Basquiat dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
On se retrouve lundi pour là-bas si j'y suis, à 15h. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Beaucoup d'émotions pour les chrétiens coptes du monde entier qui célèbrent aujourd'hui le Noël orthodoxe, tout juste une semaine après l'attentat devant une église d'Alexandrie qui a fait 23 morts. En ce moment, un rassemblement en hommage aux victimes d'Alexandrie est organisé devant l'église Notre-Dame de Paris. Lors de ses vœux aux autorités religieuses, Nicolas Sarkozy ce matin a condamné ce qui ressemble de plus en plus à un plan particulièrement pervers d'épuration religieuse au Moyen-Orient. En Algérie, un conseil interministériel se tiendra demain pour examiner les moyens de juguler la flambée des prix des produits de base. Cette hausse des prix est à l'origine des émeutes dans plusieurs villes du pays. Lors de la prière du vendredi, les imams d'Algérie ont appelé la population au calme et à la sérénité. 6 personnes placées en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un DJ d'origine antillaise, tabassé à mort la nuit du Nouvel An au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Il s'agit de 5 hommes et une femme âgées de 19 à 37 ans. Jean-Luc Delarue mis en examen pour usage et détention de stupéfiants. C'est ce qu'annonce l'avocat de l'animateur suspendu de France 2 depuis son interpellation le 14 septembre dernier. 15 grammes de cocaïne avaient été retrouvés chez lui. Un an d'interdiction de stade et des amendes de 300 à 600 100 euros pour les 5 supporters du PSG qui avaient déployé une banderole se moquant des ch'tis. C'était au Stade de France lors d'un match contre Lens en mars 2008. La défense avait plaidé le droit à l'humour de mauvais goût. Le tribunal correctionnel de Bobigny n'a pas suivi le parquet qui demandait des peines de prison avec sursis pour 3 d'entre eux. Les professeurs de collège et lycée débutants rencontrent des difficultés depuis la rentrée. On s'en doutait, mais ce sont les conclusions officielles d'un rapport de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Avec la mise en place de la réforme de la formation des enseignants, 8600 professeurs débutants ont pour la première fois quasiment tous commencé à plein temps devant une classe. Les stagiaires estiment manquer de méthode et du recul nécessaire pour effectuer leur travail et l'apprentissage de leur futur métier. Les habitants de l'Aisne ont les pieds dans l'eau. Depuis hier soir, les pompiers ont effectué une centaine d'interventions. L'eau a commencé à monter hier en fin d'après-midi. En cause, la pluie et la fonte des neiges due au redoux. Le point avec Anne-Laure Bouzige.
La neige fond et on ajoute ces fortes précipitations. 80 millilitres d'eau aujourd'hui dans l'Aisne alors qu'on prévoyait 10 à 20 millimètres. La Nationale 2 est coupée à hauteur des Très-Hauts-Ponts. Il y a 20 cm d'eau, donc une déviation est mise en place entre Vervins et la Capelle. Sur le réseau secondaire, une trentaine d'axes coupés dans les environs de Vervins, Saint-Quentin, Lens. Aucun village n'est pour l'instant isolé. Mais déjà, on s'organise. Exemple à Hirson dans le nord de l'Aisne, le maire Jean-Jacques Thomas.
On est passé de 1,50 m à 18h à 4,14 m. À 7h30 du matin, un phénomène assez exceptionnel qui est lié à la fonte de la neige et bien sûr aux précipitations exceptionnelles qui sont venues à la fois grossir le Gland, qui est un affluent de l'Oise dont la confluence se situe à Hirson, mais également le Thon sur le canton d'Aubenton. 343 maisons inondées, 40 personnes ont dû être relogées. Donc là, on a plutôt une décrue lente, mais une décrue qui s'amorce.
Les écoles sont fermées cet après-midi, les collèges également. Pour l'Oise, légère décrue effectivement, mais la prudence reste de mise. Météo France prévoit toujours des précipitations importantes demain. En revanche, la Somme est pour l'instant épargnée. Anne-Laure Bouzige, France Bleu Picardie pour France Inter.
Et puis la nomination probable de Charles Becbédé à la tête de la candidature d'Annecy pour les JO de 2018 fait des remous. L'homme d'affaires semble assuré d'être nommé lundi, puisqu'il a le soutien du président du Conseil général de la Haute-Savoie, de la ministre des Sports et de l'Élysée. Mais le président de la région Rhône-Alpes, le socialiste Jean-Jacques Kerran, estime que c'est aller tout chousse dans le mur. Il souhaite une candidature portée par le mouvement sportif.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Ce soir, nous partirons avec Julius Margolin, l'auteur de « Voyage au pays des Écas », témoignage bouleversant des 5 années que ce juif polonais, profondément européen, passa dans la folie des camps soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. À ce soir, 21h.
France Inter. La différence.
16h05 sur France Inter et c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon pour son Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Deux grands sujets aujourd'hui, la journée du journalisme sur France Inter, et puis je recevrai à 16h30 Renaud Capuçon, violoniste, pour son disque des sonates de Beethoven, gravé chez Virgin Classics, avec Franck Bralet, pianiste. Alors, les journalistes nous ont informés, et tous les jours, ils continuent à nous informer des grands sujets, heureux ou malheureux. On se souvient qu'il y a presque un an, Haïti a tremblé de manière épouvantable, et on a eu les nouvelles ici, vraiment, heure par heure, et même quelquefois minute par minute. Donc, je signale, pour commencer, un concert en hommage et surtout un concert de soutien aux Haïtiens le 12 janvier qui vient. Là, ce sera à 20h45 en l'église Saint-Louis-en-Lille. C'est 19 bis rue Saint-Louis-en-Lille à Paris, dans le 4e arrondissement, un endroit merveilleux en plus, avec une liste d'artistes absolument conséquente. Daniel Weyenberg, Jean-Philippe Collard, Bruno Rigouteau, Guy Touvron, Laurent Corsia, Dominique de Villancourt, Yann Aboukoff, Emmanuel Rosfelder, Patrick Messina, Ariane Jacob. Pour l'instant, on s'en tient là. Il y aura peut-être d'autres en plus. Donc je vais vous faire entendre un des artistes qui, j'en suis sûr, sera là, parce qu'il est toujours très fidèle, c'est Jean-Philippe Collard. Le voici dans la 7e valse en ut dièse mineure de Frédéric Chopin.